Bonjour Emmanuel et bonjour à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins.
Je prends cette boule de papier dans une main et cette boîte à sable dans l'autre. Je les lâche en même temps, ils vont arriver au sol ensemble.
Mais quelle diablerie utilisez-vous ?
Je n'utilise aucune diablerie, faites l'expérience vous-même.
Les Nouveaux Chemins qui vous parlent cette semaine depuis Lille, où nous avons posé nos micros le temps d'une série d'émissions dans le grand auditorium du Palais des Beaux-Arts, à l'occasion du festival Cité Philo 2015, pour les 19e semaines européennes de la philosophie. L'équipe des Nouveaux Chemins entre Lille et Paris se joint à moi pour vous saluer Antoine Ravon, Colomba Grossi, Lucie Tardy et Marianne Chassor, avec Mídia Portiguerin cette semaine à la réalisation, Étienne Leroy et Benjamin Thuyot à la prise de son, et celle que vous retrouvez tous les jours à 10h51 pour ses 2 minutes papillon. Elle est venue à Lille avec nous, et c'est Géraldine Mosna-Savoie. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous. Alors je vous propose d'écouter aujourd'hui les premières minutes de mon entretien avec Jean-Marie Apostolides à propos de sa biographie « Debord, le naufrageur » paru aux éditions Flammarion.
Rendez-vous à 10h51. Le thème cette année de ces rencontres lilloises est la science, mais la science telle qu'elle se fait, dans les laboratoires, les instituts, derrière les paravents professionnels qui isolent parfois la fabrication de cette science, loin des regards curieux. La science pas seulement comme résultat donc, mais aussi comme pratique, comme recherche, la science telle qu'elle se fait, et donc avec les scientifiques aussi. Et c'est pour ça que demain, le biologiste Philippe Kourilski, ancien directeur de l'Institut Pasteur et professeur honoraire au Collège de France, viendra se demander comment le corps se défend face à lui-même. Mercredi, le physicien Jean-Philippe Bouchot et l'embryologiste moléculaire Patrick Lemaire s'interrogeront sur la modélisation à l'épreuve de la pratique. Et jeudi, de retour à Paris, Jean-Michel Beignet, professeur de philosophie à l'Université Paris-Sorbonne, réfléchira sur la notion d'humain augmenté, de transhumanisme et de post-humanisme. Mais aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir le philosophe Jean-Pierre Clairaut, professeur de philosophie émérite à l'Université de Rouen, qui vient se demander pour vous si les mathématiques décrivent ou non le réel et surtout l'expérience. Bonjour à vous Jean-Pierre Clairaut.
Bonjour.
Alors silence mes enfants, taisons-nous. Dans un parallélépipède rectangle, se déplaçant le long d'une ligne intégrale, solution de l'équation différentielle du second ordre y seconde, plus tcrp facteur de x y prime plus s égale 84, deux homoïdes, dont l'un seulement, l'homoïde grand A, présente une partie cylindrique de longueur grand L plus grand que grand N, et dont deux sinusoïdes, dont le rapport des périodes égale pi sur 2 entoure la calotte sphérique, ne peuvent présenter de point de contact de la base sans avoir également un point de rebroussement. L'oscillation de deux homoïdes, tangentiellement à la trajectoire ci-dessus, entraîne le déplacement infinitésimal de toute sphère de rayon infinitésimal tangente à une ligne de longueur petit l plus petit que grand L, perpendiculaire à la partie supérieure de la médiane du plastron de l'homoïde grand A. C'est QFD.
Alors là, je vois le regard de ceux qui assistent à cette émission devant nous, Jean-Pierre Clairaut, qui s'assombrit en se disant « ça va être comme ça pendant 50 minutes ». Pas du tout. Il s'agissait d'un extrait des Frères Jacques, qui alors joue avec l'idée reçue des mathématiques, c'est-à-dire un jargon incompréhensible, voilà. Complètement coupé de l'expérience,
Jean-Pierre Clairaut. Est-ce que finalement les mathématiques sont une espèce de charabia, ou alors est-ce que les mathématiques peuvent dire quelque chose sur le réel, peuvent fonder d'une certaine façon le réel. Bon. Et il est vrai que lorsqu'on ouvre un livre de mathématiques et qu'on n'est pas compétent en mathématiques, on a toujours ce sentiment de ne rien comprendre, ou du moins d'être très très embarrassé avec le moindre sens à donner à ces textes, qui pourtant prétendent dire quelque chose, lorsqu'il s'agit de physique, ou lorsqu'il s'agit de biologie, ou lorsqu'il s'agit de sciences humaines, dire quelque chose donc de l'expérience. Alors le problème, c'est de savoir, mais comment c'est possible? Comment ces signes permettent de dire quelque chose, au fond, sur ce qu'on pourrait appeler un réel qui n'a pas l'air d'en dépendre de ces signes, qui n'a pas l'air du moins de dépendre de l'esprit qui produit ces signes. Alors, voyez immédiatement la difficulté. C'est, au fond, comment est-ce que un esprit qui produit des signes mathématiques va pouvoir d'une certaine façon expliquer quelque chose qui ne dépend en aucune façon de lui, qui d'une certaine manière est tout autre par rapport à lui, par rapport à cet esprit qui produit des mathématiques? Quelle est exactement la possibilité pour cet esprit avec des mathématiques de rendre compte du réel?
Voilà. Et est-ce sa vocation? Parce que finalement, les mathématiques n'ont pas forcément pour vocation d'expliquer le réel.
Très souvent, les mathématiques se sont plutôt mises un petit peu en marge de l'explication du réel. On fuit même d'une certaine façon le réel, se sont donné des possibles qui étaient très loin du fait d'être finalement au contact avec ce réel, entre guillemets. Hein. Mais justement, je pense que le problème qui va vite se poser, c'est qu'est-ce qu'on appelle exactement réel? Qu'est-ce que font exactement les mathématiques à l'égard de ce prétendu réel? Alors, les difficultés sont à peu près les suivantes. C'est est-ce que l'esprit, donc l'esprit humain, qui a envie d'expliquer les choses, qui donc produit des signes, est-ce qu'il va pouvoir rendre compte, comment est-ce qu'il est possible qu'il rende compte, d'une certaine façon, des choses qu'il n'invente pas, et qui lui sont en quelque sorte données? Comment est-ce possible? Et je pense qu'en très gros, on pourrait... Les philosophes, c'est plutôt une question de philosophe qu'une question de mathématicien d'ailleurs. Les philosophes ont souvent envisagé les choses ainsi, en se disant, d'une certaine façon, peut-être que ces choses ont été d'une certaine manière créées par Dieu, de la même façon que l'esprit, et c'est d'une certaine façon parce que il y a un Dieu commun, créateur en quelque sorte, des choses mêmes et de l'esprit, qu'il y a une espèce d'harmonie possible, d'une certaine façon, entre cet esprit et ces choses. Bon. Alors parfois, on ne va pas jusqu'à Dieu, qui d'ailleurs est plus problématique qu'autre chose. Au fond, on a déplacé le problème, mais on ne l'a pas résolu. On peut le résoudre avec toutes sortes d'entités, pas seulement Dieu, mais on peut parler de la nature, par exemple, où la nature aurait exactement la même fonction d'une certaine manière, mais en disant, l'esprit est naturel, la nature, d'une certaine façon, produit, elle aussi, des phénomènes, et on essaye, en quelque sorte, de faire une jonction, une harmonie entre cet esprit qui fait donc des mathématiques et qui, d'une certaine manière, peut rendre compte de ce réel. Mais il y a des façons plus fines de s'en tirer, et elles sont apparues d'ailleurs très tôt dans l'Antiquité. Elles ont été revues peut-être plus finement encore au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle et au-delà, qui consistent en gros à dire que il n'y a pas quelque chose qui est. Il ne s'agit pas de mettre en relation l'esprit avec les choses, mais il s'agit de mettre plutôt en relation l'entendement qui va en quelque sorte produire des concepts et qui produit par exemple des mathématiques, la notion de quantité qui va être déclinée de toutes sortes de façons, et d'autre part, il y a ce qu'on pourrait appeler l'intuition, quelque chose qui n'est pas exactement de l'ordre du concept et qui nous permet d'être en relation avec quelque chose qui nous est prétendument donné. Et alors là, du coup, on déplace un tout petit peu le problème et on s'aperçoit qu'il ne s'agit pas tellement de mettre en relation un esprit qui fait des mathématiques avec des choses, mais un esprit qui, certes, fabrique des mathématiques, mais en même temps avec sa propre intuition, qui elle-même, d'une certaine façon, se rapporte à ces choses. Mais on voit qu'on a déplacé un petit peu la difficulté. Le problème est plus quelque chose qui est interne à l'esprit, à diverses faculté de cet esprit, hein, quelqu'un qui peut d'une certaine façon produire des concepts et d'autre part qui jouit d'une sorte d'intuition. Et quand on regarde d'une certaine façon comment les concepts se rapportent à l'intuition, si on parvient à dire quelque chose là-dessus et à réfléchir comment les choses se font, eh bien on va peut-être pouvoir dire comment il est possible de se servir des mathématiques pour décrire les phénomènes ou dire quelque chose sur les phénomènes.
Au fond, la question est de savoir si les matériaux mis en œuvre dans l'espace des mathématiques sont identiques aux matériaux observés, expérimentés, constatés dans ce que nous appelons le monde réel. Et c'est pour ça que, juste un point, puisque justement vous êtes philosophe, et c'est en connaissance de cause que je vous ai invité, on aura des scientifiques demain après-demain, procédons par distinction conceptuelle. On emploie indifféremment là, réel et expérience. Le livre que vous avez dirigé avec Evelyne Barbin, qui rassemble plusieurs contributions, s'appelle « Les mathématiques et l'expérience ». Et moi, je vous ai demandé, est-ce qu'il y a un lien avec le réel ? C'est pas la même chose. Parce que finalement, on peut faire une expérience interne en faisant des mathématiques. Il y a une expérience qui n'est pas la même que l'expérience d'un monde extérieur.
Tout à fait. D'ailleurs, dans les 19 contributions qui constituent le livre, certains ont compris l'expérience comme étant une sorte d'expérience interne aux mathématiques, ce qui n'est pas absurde, c'est tout à fait vrai. Il y a effectivement une sorte d'expérience que le mathématicien peut faire, d'une certaine façon, de ses propres objets. Alors, par exemple, Jean Toussaint de Santy, dans la philosophie silencieuse, dit très exactement ça. Il dit qu'il n'est pas absurde de supposer qu'il y a une sorte d'expérience. Bien sûr, ce n'est pas une expérience du coup du tout autre, si j'ose dire, encore que l'esprit peut se trouver en quelque sorte débordé et étonné lui-même par les objets, d'une certaine façon, qu'il est en train de produire. Mais la difficulté là que j'étais en train de pointer est la suivante. Au fond, c'est à partir de l'expérience, on peut toujours essayer de la décanter, d'obtenir en quelque sorte des objets, d'essayer de trouver quelque chose qui est de l'ordre de la régularité, qui nous permet en quelque sorte de trouver des règles, de trouver quelque chose qui paraît constant. Et de l'autre côté, l'esprit qui fait des mathématiques produit aussi des objets. C'est-à-dire que dès que vous faites des mathématiques, vous avez l'impression de parler de quelque chose. Et le problème va être de savoir si on peut faire la jonction entre cet objet ou ces objets que les mathématiciens sont capables en quelque sorte de produire, de fantasmer, et ces objets qui paraissent dérivés d'une certaine façon de l'expérience. Au fond, est-ce qu'il y a une intersection entre ces deux types d'objets ou est-ce qu'il y a un jeu indéfini entre ces deux types d'objets, de telle sorte que celui qui s'occupe de science doive constamment travailler à essayer d'harmoniser ces deux types d'objets, les faire coïncider totalement, ça serait le rêve, ou alors simplement partiellement, et c'est généralement ce que les mathématiciens et les scientifiques recherchent d'une certaine façon.
Au fond, c'est toute la question du scepticisme qui se pose à travers cette
réflexion sur les mathématiques. C'est la question du scepticisme qui se pose bel et bien.
Et puis être sûr qu'il y a une cohérence, une conformité entre mon esprit et le monde.
Voilà, c'est ça. Et comment s'en assurer ? Est-ce que, d'une certaine façon, nous ne fabriquons pas des expériences qui nous permettent d'une certaine façon d'avoir à ne parler que de phénomènes qui ont été en quelque sorte préfabriqués par notre esprit, ou alors est-ce qu'on a véritablement affaire à du tout autre, de telle sorte que l'esprit s'y applique et essaye d'en dire quelque chose. Et c'est, voilà au fond comment le scepticisme peut jouer, c'est-à-dire est-ce que et là, on va trouver depuis l'Antiquité des positions sceptiques sur les mathématiques, chez Sextus Empiricus, par exemple, ou chez les sophistes, ou alors jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, on trouve des positions sceptiques, qui visent à dire à peu près ceci, c'est que en fait, on n'explique jamais rien, d'une certaine façon, en mathématiques. On ne peut pas expliquer avec les mathématiques quoi que ce soit. Ce qu'on peut faire au mieux, c'est d'une certaine façon mettre en forme, faire en sorte d'informer ce qui semble nous être donné par l'expérience, et puis d'obtenir, grâce aux mathématiques, qui est un langage qui permet une grande transformation des propositions, d'obtenir ces transformations au bénéfice, d'une certaine façon, d'un discours qui paraît être un discours sur les choses, hein, et qui, en réalité, peut-être un certain discours sur lui-même, d'une certaine manière.
Alors, on va entendre un texte tout de suite qui propose une thèse bien connue et qui semble esquisser une sortie hors de ce scepticisme. C'est un texte de Galilée, qui, selon, pour qui le monde est tout simplement, si j'ose dire, écrit en langage mathématique, ce qui évidemment conduit à une nouvelle formulation de la question qui nous occupe aujourd'hui. Écoutez.
Je crois déceler chez Sarcy la ferme conviction qu'en philosophie, il est nécessaire de s'appuyer sur l'opinion d'un auteur célèbre et que notre pensée, si elle n'épouse pas le discours d'un autre, doit rester inféconde et stérile. Peut-être croit-il que la philosophie est l'œuvre de la fantaisie d'un homme, comme l'Iliade, où la vérité de ce qui s'y écrit est la chose la moins importante. Il n'en est pas ainsi, signor Sarcy. La philosophie est écrite dans cet immense livre qui se tient toujours ouvert devant nos yeux, je veux dire l'univers. Mais on ne peut le comprendre si l'on ne s'applique d'abord à en comprendre la langue et à connaître les caractères avec lesquels il est écrit. Il est écrit dans la langue mathématique. Et ces caractères sont des triangles, des cercles et autres figures géométriques sans le moyen desquels il est humainement impossible d'en comprendre un mot. Sans eux, c'est une errance vaine dans un labyrinthe obscur.
Alors comment comprendre ce texte, Jean-Pierre Clairon ?
Comment comprendre ce texte, oui, parce qu'il a d'ailleurs fait beaucoup de problèmes, ce texte. Il a souvent été interprété, je pense par exemple par Alexandre Coiré, comme une sorte de platonisme de Galilée. Hein. Coiré faisant allusion manifestement au Timée de Platon, hein, puisque Platon pensait que le monde lui-même était constitué par des objets mathématiques, des figures mathématiques, hein, et des petits objets mathématiques qui s'emboîtaient en quelque sorte les uns dans les autres. Alors, est-ce que c'est quelque chose comme cela que Galilée dit dans ce texte, quand il dit que la nature est un livre, et comme un livre écrit en caractères mathématiques? Je crois que, en réalité, il faut faire très attention à ça. Il y a beaucoup d'indices. On s'aperçoit que Galilée n'est pas platonicien. Hein. On pourrait le montrer par énormément d'aspects. Et je pense que, à propos de cette image qui est très célèbre, hein, il l'a reproduite dans plusieurs lettres. Enfin, on voit très souvent ce thème revenir. Mais quand on regarde bien, il dit que c'est un livre. Hein. Il dit que c'est un livre, c'est-à-dire qu'il y a des feuillets, hein, et que ce qui est dit dans un certain feuillet en caractère mathématique, va pouvoir être peut-être reproduit autrement par d'autres feuillets. Et on a plutôt l'idée que les mathématiques, ça peut servir à transformer quelque chose. Mais il n'est pas absolument évident que Galilée ait voulu dire que les choses mêmes étaient véritablement, comment dire, était de nature mathématique. Il veut simplement dire, je crois, que on peut se servir des mathématiques, on doit même se servir des mathématiques, si on veut comprendre quoi que ce soit, si on veut mettre en ordre, effectivement, la nature. Mais attention, ça ne veut pas dire par là que on sache exactement ce que sont les choses. Les mathématiques ne nous disent pas ce que sont les choses. C'est pas un discours essentiel sur les choses. Hein. C'est plutôt une manière de mettre en forme les choses, hein, et d'avoir, en quelque sorte, cette espèce de feuilletage dont il nous parle, hein, où on peut mettre en forme une première fois les choses, les remettre en forme d'une certaine façon une seconde fois, et on obtient par là des transformations. Et c'est, je pense, essentiellement ce qu'il veut dire. Parce qu'il n'y a pas tellement d'autres discours qui permettent des transformations.
Mais on peut aussi y entendre une prise de distance par rapport à la conception aristotélicienne de la science,
de toute façon,
dont Sarcy, à qui s'adresse, est le porte-parole, à savoir, pour Galilée, la science, les mathématiques, ne consistent pas à expliquer les phénomènes par les causes, ça c'est la conception aristotélicienne de la science, mais d'essayer de comprendre leurs effets par des lois mathématiques. Et là, il faut bien distinguer la connaissance par les causes et la recherche de lois.
Tout à fait. Là, on se trouve au XVIIe siècle, dans un siècle qui va essayer de montrer qu'il existe des lois, hein, des lois de la nature. Bon. C'est-à-dire que, qui sont, alors on va y discuter, les philosophes ne sont pas du tout d'accord entre eux là-dessus, est-ce que ce sont vraiment des lois de la nature ou des lois de l'esprit qui fait de la physique, mais ce qui est absolument commun à peu près à tous les philosophes du XVIIe siècle, c'est qu'on cherche des lois. Il semble aller de soi que, d'une certaine façon, il existe quelque chose comme des lois. Alors, ça se trouve chez Galilée, qui écrit, au fond, la première grande loi, qui est la loi de la chute des corps. Mais on en trouve chez Descartes des lois, et le mot même de loi apparaît dans les textes, dans le traité du monde, dans la physique. Descartes n'hésite pas à parler de loi, d'une certaine façon, comme si il y avait quelque chose comme cela, une sorte de contrat entre l'esprit et les choses, et que ce contrat a une espèce de valeur, d'une certaine façon, absolue. Et on pourrait trouver chez Newton, là, les choses deviennent tout à fait presque exorbitantes, puisque les contemporains ont été tout à fait étonnés de ce qui se passait. On a l'impression que les lois collent véritablement avec les phénomènes, disent exactement ce qui se passe. On déchantera très vite. Il est évident que quelques décennies au-delà des textes de Newton, un très grand nombre de physiciens vont mettre en cause la rigueur, la prétendue rigueur des lois, de la loi d'attraction par exemple. Mais pendant un certain temps, on a l'impression véritablement qu'il existe quelque chose comme des lois. Alors, on peut mettre en cause ces lois. Et c'est ce qui va se passer, par exemple, au XVIIIe siècle. Le texte en question, Les mathématiques et l'expérience, donne largement la parole à des auteurs qui vont justement mettre en question ces lois. Et en disant d'une certaine façon qu'il n'y a pas, je pense par exemple à Hume en particulier, qui va mettre en question l'idée que on puisse garantir qu'il y ait quelque chose comme des lois. S'il y avait des lois, cela voudrait dire, d'une certaine façon, qu'on puisse être absolument certain de ce qui va se passer, alors qu'on n'en sait encore rien, et de ce qui s'est passé, alors que on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que on peut être sûr, peut-être, des expériences que l'on a faites, et on peut constater là, à partir des expériences que l'on a faites, une relative stabilité, mais cette stabilité, vous ne pouvez que la fantasmer pour ce qui concerne l'avenir ou pour ce qui concerne le passé. Et là, on s'aperçoit que, du coup, on a affaire à quelque chose qui peut pas se justifier tout à fait rationnellement. On peut simplement, dans ce cas, probabiliser peut-être les choses. On peut dire, d'une certaine façon, puisque le tel phénomène ou telle subséquence de phénomènes, telle suite de phénomènes, s'est produite un certain nombre de fois, sans vraiment faire défaut, eh bien, on a une impression de stabilité qu'on peut essayer, d'une certaine façon, de probabiliser en disant que, eh bien, puisque ça s'est passé sans défaut pendant un certain nombre de séquences, cela se passera de la même façon et s'est passé de la même façon jusque-là. Mais, au fond, qu'est-ce qu'on en sait?
Hume va jusqu'à dire que je peux pas conclure du fait que le soleil soit levé tous les matins depuis que je suis né, qu'il se lèvera encore demain.
Je pense qu'il a raison quand il dit ça. De fait, on ne peut pas savoir quelque chose comme ça. On peut en avoir une très bonne, apprécier ça avec l'impression qu'il y a une très grande chance pour que la chose se produise comme cela. Mais au fond, on ne peut pas savoir quelque chose comme ça. On peut pas. Ce n'est qu'une affaire de croyance. Ou si on veut transformer cette croyance en quelque chose d'un petit peu plus précis, alors on est obligé de se tourner vers les probabilités, où on regarde, on probabilise le phénomène, c'est-à-dire qu'on va se demander si, par exemple, un phénomène est relativement stable, s'il est très très stable, eh bien, avec quelle chance d'avoir raison, quelle chance de se tromper, on pense qu'il va se reproduire à l'avenir ou qu'il s'est produit dans le passé. Mais au fond, on ne peut pas aller tellement au-delà. Mais voyez que, dans ce cas, quand on commence à prendre ce chemin-là, on met la notion de loi à l'épreuve. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, on s'aperçoit que la loi, elle est faite d'énormément de croyances. Elle n'est pas faite de quelque chose qui est absolument sûr, alors que, d'une certaine façon, c'est bien son but, essayer de dire exactement ce qui se passe dans les choses. Mais elle ne peut plus faire ça. Elle est dépendante de notre propre esprit, d'une certaine façon, qui évalue les chances pour qu'il existe quelque chose comme des lois. C'est-à-dire que l'esprit parle certes des choses, mais il en parle indirectement, il parle de lui-même comme ayant rapport aux choses. Et donc, en quelque sorte, la loi recule. Enfin, je veux dire par là, il n'est pas sûr que la loi soit loi des choses, elle est règle plutôt d'action à l'égard de ces choses. À partir du XVIIIe siècle, on s'aperçoit très bien que, d'une certaine façon, ce qui se passe, c'est que la science devient extrêmement active. Elle est une activité, elle est une action des hommes, d'une certaine façon. Mais elle ne dit pas, elle n'a pas de portée ontologique, au sens où elle ne dit pas quelque chose sur les choses. Ou du moins, quand elle le dit, c'est avec des risques de se tromper, qu'il faut qu'elle endosse, qu'il faut absolument qu'elle dise, et d'où le déplacement de l'intérêt au XVIIIe, XIXe siècle vers des lois qui vont être essentiellement probabilistes. Si on prononce encore le terme de loi, ça va être toujours avec l'idée qu'il faut les amender, qu'il faut les corriger, qu'il faut constamment leur infliger des petites équations, comme disait Laplace, de telle sorte que les choses puissent à peu près dire quelque chose apparemment sur les choses. Mais il n'est pas du tout clair qu'elles disent quelque chose véritablement sur les choses ultimement. Il faut d'ailleurs tellement de corrections pour que ce soit vrai, et des corrections indéfinies pour qu'au fond, on commence moins à croire, à partir du XVIIIe, XIXe siècle, à la stabilité des lois. Les lois sont extraordinairement fragiles sur le plan ontologique, et elles n'ont de sens qu'avec des chances de se tromper.
D'où la définition de la loi par Jeremy Bentham comme étant une métaphore. Une loi de la nature est une métaphore. Oui. Écoutons le texte.
Oui.
L'expression « loi de la nature » est figurative, métaphorique. C'est une métaphore prélevée sur l'usage qui est donné au même terme de « loi » dans le cas de la loi politique. C'est à cette source, par conséquent, que nous devons recourir pour l'expliquer. Pour ce qui est des événements de la nature physique, le grand et constant objet de curiosité et d'enquête est celui qui concerne la cause. Et sur un sujet aussi intéressant, quand les hommes ne peuvent parvenir aux faits, plutôt que de ne rien avoir, ils sont désireux de s'accrocher et de s'en tenir à des mots. Entre tel et tel groupe de faits, on observe une certaine conformité. La question devient alors, quelle est la cause de cette conformité ? La conformité n'est rien en elle-même. Elle n'est rien d'autre qu'un mot qui exprime l'état dans lequel se trouvent nos esprits qui contemplent ces faits. Il y a des faits, ils existent, mais la conformité prise pour un fait distinct des faits eux-mêmes n'a pas d'existence. Comme tant d'autres vérités, celle-ci, n'étant rien de plus qu'un aveu d'ignorance, d'une ignorance invincible, ne satisfait pas l'esprit humain. On ne peut rien avoir en cette occasion que des mots représentant falsifiés des faits. Plutôt que de ne rien avoir, ce sont eux que les hommes sont déterminés à posséder. La conformité étant, comme tout autre fait réel ou supposé, susceptible de la dénomination d'un effet, c'est la preuve de l'existence d'une cause. Quel nom, dès lors, doit-on donner à cette cause ? Quel nom, quel mot ? Car quand les hommes sont en possession de mots, ils sont en possession de ce avec quoi ils se contentent de se payer eux-mêmes. Quelle cause ? Une loi de la nature.
Ils étaient sauvés. Le professeur Chadoko, dans un éclair de génie, vient de découvrir le pourquoi du ciel qui leur tombe sur la tête. Les choses tombent, gambergeait-il donc, à cause qu'elle recèle en elle une humeur maligne, une propension intime, intrinsèque, en un mot, un principe tombant et qui les fait tomber, la tombomanie. Or, ne croyez pas que cette tombomanie soit l'effet d'une soi-disant loi universelle, non. C'est le fruit de la coupable industrie d'un microbe ou virus, appelé le tombeau-virus. Ah, la voilà, la sale bête. Alors voyez, mordu par le tombeau-virus, l'objet contaminé est pris au cerveau et saisi de l'envie irrésistible de se précipiter par terre. Et selon que la chose est plus ou moins contaminée, elle est douée d'une force tombique plus ou moins contondante. Ça dépend de la gravité, de la maladie en quelque sorte. Voilà pourquoi le ciel tombe.
Vous écoutez France Culture, le nouveau chemin de la connaissance. C'est le premier temps de notre série d'émissions enregistrée à Lille dans le cadre du festival Cité Philo, où nous avons posé nos micros le temps d'une série d'émissions consacrées à la science telle qu'elle se fait. C'est le thème du festival cette année, dans le grand auditorium du Palais des Beaux-Arts de Lille, où nous sommes en train de faire cette première émission avec Jean-Pierre Clairaut, le philosophe Jean-Pierre Clairaut, qui est l'auteur avec Evelyne Barbin, qui a co-dirigé avec Evelyne Barbin un ouvrage intitulé « Les mathématiques et l'expérience, ce qu'en ont dit les philosophes et les mathématiciens » aux éditions Hermann, et c'est donc de cette question, la rencontre entre mathématiques et expérience que nous parlons depuis le début de l'émission. Alors Jean-Pierre Clairaut, si finalement, comme le dit Bentham dans le texte qu'on a entendu, la loi n'est que l'expression de la recherche d'une cause, alors les Shadocks ont raison.
Oui, Pleplus dit les choses à peu près correctes. Oui,
avec la tombomanie, finalement, je tombe parce qu'ils ont la tombomanie.
Il pose des problèmes qui ont été posés au XVIIe siècle d'une manière très très forte. Enfin, on s'est demandé si cette attraction n'était pas une certaine manière de donner encore une fois, alors que Descartes, alors que Spinoza avait essayé d'expurger complètement la matière de tout esprit, est-ce qu'on n'est pas encore en train de redonner de l'esprit dans la matière, hein? Et de fait, là, alors bien sûr, on peut ironiser comme le fait Pieplus, mais ou comme le font les Shadocks, mais je veux dire que, d'une certaine façon, le problème s'est bel et bien posé. Mais ce que met en cause Bentham, qui tire au fond les conséquences, on est en gros en 1820, quelque chose
1827,
comme ça.
Oui.
1827, oui. Lorsqu'il écrit ce texte, ce que met bien en relief Bentham, c'est que on avait peut-être eu tort de parler de loi au XVIIe siècle. Il fallait peut-être pas parler de loi. Et la loi n'avait pas à sortir du secteur juridique dans lequel elle a pleine efficience, si je puis dire. Mais c'est simplement par une espèce de métaphore que l'on s'est mis à parler de loi. Et d'une certaine façon, le mot est peut-être désastreux. Et il serait peut-être temps, au fond, c'est ce que préconise Bentham, qui n'a pas été écouté là-dessus, et d'ailleurs peut-être tant mieux, peut-être faudrait-il éliminer la notion de loi. Et on voit très bien ce qu'il est en train de suggérer, il y a une idée qui me semble très importante, c'est que ce qui est en train de se jouer, c'est que, d'une certaine façon, la vérité scientifique n'est pas une vérité de conformité. C'est-à-dire que c'est pas ce qui est en train de se faire au XVIIe, XVIIIe et XIXe, et là il peut penser par exemple à un auteur comme Laplace, d'une certaine façon, la loi n'est pas une loi de conformité, elle ne dit pas quelque chose qui serait conforme aux choses. Et elle est essentiellement un discours qui doit être probabilisé, c'est exactement ce que pense Laplace, et ce discours, il est fait d'une certaine façon pour que les savants puissent s'entendre par une espèce de contrat entre eux, sur des lois, et que ces lois puissent être constamment modifiées. En très gros, Laplace ne met pas tellement en question la loi de Newton. À ses yeux, elle n'est pas vraie. Elle ne dit pas exactement ce que sont les choses. Mais ce qui est possible de faire avec cette loi de Newton, c'est on peut l'amender. Elle est amendable par l'analyse, qui est un instrument puissant en mathématiques. On peut très facilement bouger un tout petit peu les choses, faire osciller d'une certaine façon les choses pour que ces mathématiques puissent apparaître comme rendant compte des choses. Mais il est, encore une fois, bien entendu, que les lois ne disent pas quoi que ce soit sur les choses mêmes. Simplement, on dit quelque chose sur le maniement de ces choses. On sait, au fond, comment intervenir sur ces choses. Et on peut se mettre d'accord entre savants pour, en quelque sorte, amender constamment le système. Et ce qui se passe, au fond, à peu près à la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe, et Bentham parle au début du XIXe, c'est qu'on a une espèce de société des savants qui franchit les frontières, qui n'est pas du tout, qui respecte pas la France, l'Angleterre, etc. Les guerres peuvent très bien avoir lieu. Les savants continuent à se parler, à s'envoyer des résultats. Et les uns vont modifier les formules, les autres vont se servir d'appareils, d'instruments pour enregistrer un certain nombre de faits astronomiques. Et on va, en quelque sorte, fabriquer et modifier constamment cette loi de Newton de telle sorte qu'elle puisse coller, si j'ose dire, au mieux à ce que l'on croit voir, à ce que l'on croit sentir. Et du coup, on n'a pas exactement affaire à de la conformité, c'est exactement le mot qui est utilisé dans le texte. C'est plutôt un accord des savants entre eux pour décrire, en quelque sorte, cette nature. Mais ce n'est pas exactement une description des choses mêmes. On s'entend entre savants pour savoir comment agir sur les phénomènes. C'est-à-dire qu'on est dans une optique d'action, d'une certaine façon.
Et c'est pour ça, est-ce que nous n'avons pas glissé ici des mathématiques à la science physique davantage, quand vous parlez d'action, de loi des phénomènes? Est-ce qu'on est encore dans le registre purement mathématique?
Je crois que c'est relativement difficile de distinguer exactement au couteau là où on a affaire à des mathématiques, là où on a affaire à de la physique ou à autre chose. Parce que, en réalité, attention, il ne s'agit pas seulement de physique, dans le texte de Bentham, il peut s'agir de ce que nous appelons, nous, aujourd'hui, des sciences humaines, ou il peut s'agir de biologie. En très gros, l'idée, c'est que il faut peut-être éviter de parler de la science comme si elle nous disait quelque chose sur quelque chose qui lui serait complètement extérieur. Cet extérieur, il est en quelque sorte pris dans le discours, il est pris dans un système d'actes, et on est dans une espèce de spirale qui n'en finit pas, où la théorie va chercher d'une certaine façon des objets. Et elle, à partir de ces objets, on va en quelque sorte rethéoriser, modifier la théorie, et on est dans une spirale qui est sans fin, qui n'a peut-être pas vraiment commencé, et on ne sait pas exactement comment les choses se termineront. Il n'y a pas de fin de la science, c'est quelque chose qui est un processus tout à fait indéfini, et essentiellement un processus pratique. C'est-à-dire qu'on est là dans un système qui est plus pratique que ontologique, décrivant en quelque sorte ou prétendant décrire l'être des choses ou ce que sont les choses en elles-mêmes ou essentiellement.
Est-ce que ça veut dire qu'en toute rigueur, il faudrait remplacer, substituer à la nécessité la probabilité?
Tout à fait. C'est exactement. Là, on est dans un texte. Le texte que vous avez lu est extrait du Rational of Judicial
Evidence.
Oui. Et c'est un texte qui, effectivement, consacre énormément de pages à la notion de probabilité. On est très exactement dans ce système-là. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que vous avez un système qui élimine en quelque sorte les causes. C'est-à-dire que vous êtes plutôt dans des systèmes de subséquence, on repère des événements qui se suivent, on intervient dans ces séries, dans ces suites, on est constamment en train de les faire bouger, les changer, on change les phénomènes qu'on met en subséquence, on les observe plus finement, on les analyse, on est donc constamment en train de modifier ces séries ou ces suites, mais encore une fois, il n'est pas du tout question d'une connaissance quelconque des choses mêmes. On est plutôt dans un système d'action où les hommes agissent d'une certaine façon et agissent entre eux et paraissent donner lieu à des descriptions, alors qu'en réalité, ils sont en train d'agir les uns par rapport aux autres. C'est ça le point.
Quoique dans les jeux de hasard purs, les résultats soient incertains, la chance qu'un joueur a de gagner ou de perdre a cependant une valeur déterminée. Si quelqu'un parie de jeter avec un dé 6 points au premier coup, il est incertain s'il gagnera ou s'il perdra. Mais ce qui est déterminé et calculable, c'est combien la chance qu'il a de perdre son pari surpasse celle qu'il a de le gagner. De même, si je joue avec une autre personne à qui gagnera le premier 3 parties et que j'en ai déjà gagné une, il est encore incertain lequel des deux l'emportera. Mais on peut calculer avec certitude le rapport de ma chance de gagner à la sienne. Et l'on sait par conséquent aussi de combien, si nous voulons interrompre le jeu, la part de l'enjeu à laquelle j'ai droit surpasse la sienne. On peut calculer également pour quel prix je devrais raisonnablement céder mon jeu à quelqu'un qui désirerait le continuer en mon lieu. Bien des questions de ce genre peuvent se présenter en des cas semblables, où il y a 2, 3 ou plusieurs personnes. Et comme ces calculs ne sont pas universellement connus et peuvent souvent être utiles, j'en indiquerai brièvement la méthode, après quoi je considérerai aussi le jeu au dé. «
Jean-Pierre Clairaut, Christian Huygens est moins connu que Blaise Pascal et pourtant c'est le premier à avoir écrit un traité sur les probabilités. On entend bien que d'ailleurs les travaux de Pascal ont été écrits à partir de ce texte-là.
Probablement. Je ne sais pas exactement les dates, mais très probablement. Ou du moins, ce sont des textes qui sont très, très voisins hein, par les dates. Et d'une certaine façon, ils disent la même chose, ils posent le même problème. Moi, je pense que montre bien ce genre de texte, c'est l'incertitude sur l'objet même de ce que dit celui qui traite de probabilité. J'ai un dé entre les mains, je jette ce dé, je dis j'ai une chance sur 6 de sortir l'as. Je peux bien jeter le dé, ne pas avoir l'as, il n'en demeure pas moins que, d'une certaine façon, j'avais raison, si le dé n'est pas pipé, de dire quelque chose comme ça. Mais de quoi je parle ? C'est là où est le point qui est très étrange. Je suis en train de fabriquer un étrange objet, parce qu'il n'est pas vérifiable par l'expérience. Encore une fois, ça peut être démenti par l'expérience, et en réalité, demeurer. Sa vérité peut parfaitement demeurer. Je peux avoir raison contre l'expérience, d'une certaine façon. Ou plus exactement, l'expérience ne mord pas sur l'objet que je suis en train de créer. Et on s'aperçoit que la science va pourtant s'engouffrer dans cette direction-là. C'est ce qu'on voit de plus en plus. Avec Huygens, on est en gros dans les années 1650. Mais graduellement, on va, par exemple, au XVIIIe siècle, faire des choses beaucoup plus fines en matière de probabilité. On va se demander si on a raison, par exemple, d'assigner tel degré de probabilité à une subséquence, comme on dit, qui s'est reproduite un certain nombre de fois. Et là, on est en train de, là, on parlera plutôt, en gros, de probabilité des causes. Au fond, les probabilités vont se substituer, d'une certaine façon, aux causes. Ce que vous lisiez tout de suite concerne plutôt des probabilités de chance. Et on a l'impression, là, très directement, que on parle de choses. Quand on parle d'un dé que l'on jette, etc., on a l'impression qu'on parle de choses. Mais voyez, ce que je voulais vous faire remarquer, c'est que, d'une certaine façon, on ne parle pas de choses. C'est-à-dire que les choses jouent un jeu là-dedans, mais on est en train de fabriquer des objets. Et le problème, ça va être de savoir si ces objets qu'on est en train de fabriquer disent quelque chose sur l'expérience. De quoi ça parle, d'une certaine façon? Et en quoi est-ce que ces objets qu'on a fabriqués peuvent avoir une certaine prise sur les choses, qu'elles soient de l'ordre physique ou de l'ordre psychologique ou de l'ordre sociologique, etc.
D'autant qu'ici, le domaine sélectionné est vraiment celui du hasard. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'appliquer la probabilité au jeu de hasard. C'est qu'on sait qu'on est dans un domaine où l'incertitude règne.
Oui, oui.
Et dès lors, comment peut-on établir ce qu'on pourrait appeler une forme de loi de la probabilité, finalement?
Alors, est-ce qu'il faut parler de loi?
Parce que ça parle-t-on, alors?
C'est vrai que la loi reculerait d'un cran, si je veux dire. On ne peut pas l'avoir directement sur les choses. Alors, on peut peut-être l'avoir quand l'esprit, en quelque sorte, se prend comme partenaire disant quelque chose sur les choses. Mais dans ce cas, il vaudrait peut-être mieux parler de règles ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, le mathématicien Bayes, qui est d'une extrême prudence, c'est un théologien anglais qui a écrit à peu près au milieu du XVIIIe siècle, qui, je ne sais plus quand exactement il est mort, mais son texte au moins a été publié en gros en 1763 ou quelque chose comme ça. Eh bien, ce mathématicien essaye donc de montrer exactement comment, enfin, essaye de montrer à quoi peuvent s'appliquer les probabilités. Et elles s'appliquent d'une certaine façon à un esprit qui, certes, peut dire quelque chose sur les choses, mais essentiellement, il s'adresse à lui-même comme disant quelque chose sur les choses. On a quelque chose qui devient très, très, très indirect. La science ne peut pas prétendre dire quelque chose de directement sur les choses, qui soit direct sur les choses, mais vous avez affaire à un discours qui est indirect. Alors là, on est très loin de Newton. C'est-à-dire qu'à la fois, il peut servir d'ailleurs très bien des mathématiques de Newton, c'est ce qu'il fait dans son texte, mais l'esprit a complètement changé. On n'est plus du tout en train de calquer les phénomènes, on n'essaye pas de les imiter, on en est très loin. On accepte d'une certaine façon que les mathématiques qu'on utilise ne dessinent plus le réel, ne disent plus quelque chose sur les choses, mais en soient très loin. Et on accepte cet éloignement des choses, d'une certaine façon. Et bien sûr, ce point-là va être constamment cultivé par les mathématiciens du 19e siècle, etc. C'est-à-dire qu'on ne se souciera plus d'imiter les choses, alors que Newton se vantait que sa géométrie était on ne peut plus proche des choses. Il croyait d'une certaine façon qu'avec ses grandeurs évanouissantes, etc., on était tout proche de phénomènes qui existaient véritablement dans les choses. Là, on en est très loin. Il ne s'agit pas de ça du tout. L'esprit n'a de rapport, au fond, qu'avec lui-même. Il va faire entrer l'expérience dans un rapport qui est profondément un rapport assez interne de l'esprit avec lui-même. Et on est en train d'inventer une science qui met l'accent plus sur le concept d'une certaine façon, qui en quelque sorte s'épanouirait par sa propre logique, sa propre force, et qui n'aurait pas besoin de se penser comme étant un sujet qui serait en rapport avec des objets.
Mais si c'était le cas, alors il n'y aurait pas de progrès scientifique aujourd'hui, d'innovation technique, il n'y aurait aucune applicabilité de cette réalité créée par le monde des sciences et concepts propres au cerveau humain.
Et on peut compliquer les choses d'une certaine façon. C'est-à-dire que ce que l'on appelle progrès scientifique, il faut d'ailleurs se méfier de ce mot de progrès scientifique. Est-ce que ça veut dire qu'on en sait de plus en plus? Est-ce que ça veut dire qu'on modifie simplement les choses de manière de plus en plus sophistiquée? C'est peut-être plutôt comme cela qu'il faut entendre.
Oui, sans valeur morale derrière.
Mais à coup sûr, ben là, il faut faire très attention à ne pas imaginer qu'on saurait de mieux en mieux les choses. Je pense qu'on sait surtout, on a une appréhension, une appréciation technique des choses qui est de plus en plus fine et de plus en plus forte. Mais de savoir si on sait de mieux en mieux les choses, ça, c'est pas dit du tout. C'est-à-dire que, est-ce que la médecine sait de mieux en mieux les maladies? C'est peut-être pas exactement ça. Elle prend de mieux en mieux en charge les malades. C'est-à-dire qu'elle sait de mieux en mieux intervenir dans une situation qui est complexe. C'est-à-dire qu'elle prend en charge les choses. Bon, et elle sait faire quelque chose comme ça. Mais elle ne décrit pas les choses, encore une fois, comme si elles existaient en soi. Il n'y a pas véritablement...
Ce que je veux dire, c'est que pour être efficace, puisque là, vous parlez de médecine, donc on parle vraiment, on a besoin de prendre en compte la notion d'application de cette science à la réalité, eh bien, pour être efficace, la médecine, en l'occurrence, n'a pas forcément besoin d'être en conformité totale avec le réel. Voilà. Si ça passe par le biais de la reconstruction d'une forme de réalité tierce, eh ben c'est pas un problème en soi.
On n'a pas besoin, effectivement, de dire le nom même des maladies. Au fond, importe peu. Ce qui importe, c'est plutôt que l'on soit soigné, bon, et que, d'une certaine façon, on recouvre la santé. Bon, c'est ça qui est important. Et au fond, la science est plus quelque chose de cet ordre. C'est plus quelque chose qui est de cet ordre extrêmement pragmatique, extrêmement pratique, que de l'ordre d'un discours qui serait ontologique et qui dirait les choses. C'est ça peut-être le point. Et ça, je pense que on peut le voir surtout dans ces textes. On peut le voir en germe dans ces textes de probabilité. Je pense que c'est là où on le voit peut-être le mieux.
Donc l'histoire des sciences serait allée vers davantage de scepticisme, en fait, si on vous suit.
C'est mon sentiment.
C'est votre interprétation.
Maintenant c'est mon interprétation. Je veux dire, mais il se trouve que le texte que vous avez lu de Bentham, c'est un utilitariste tout de même qui le fait.
Bon. Qui vous est cher.
Qui nous est cher, effectivement. Mais je veux dire, c'est un utilitariste au sens où c'est quelqu'un qui met les valeurs d'action bien avant les valeurs de connaissance, ou plus exactement, qui relativise les valeurs de connaissance à des valeurs d'action, ou qui tient la connaissance pour un certain type d'action. L'action étant finalement quelque chose d'essentiel. C'est ça qui est peut-être le plus important de toute cette affaire.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me.
To me.
grand merci à vous, Jean-Pierre Clairaut, d'être venu nous parler aujourd'hui. Et merci au public qui était présent, qui a assisté à cette discussion. Vous pouvez le féliciter. Je renvoie à l'ouvrage que vous avez co-dirigé avec Evelyne Barbin, « Les mathématiques et l'expérience, ce qu'en ont dit les philosophes et les mathématiciens », disponible aux éditions Hermann. Et c'est un bon avant-goût de ce qu'on trouvera dans ce livre et la discussion que nous venons d'avoir. Et je vous laisse avec Queen, Bohemian Rhapsody, qui pose à leur façon la question de la conformité entre l'esprit et le monde. Alors évidemment, c'est un crève-cœur de prendre la parole cette chanson, mais vous l'aurez dans la tête toute la journée, chers auditeurs. Il est 10h51 et comme tous les jours, à 10h51 sur France Culture, il est l'heure de retrouver les 2 minutes papillon de Géraldine Mosna-Savoie.
Bonjour Jean-Marie Apostolides, vous êtes l'auteur d'une biographie consacrée à Guy Debord, Debord le naufrageur, qui vient de paraître aux éditions Flammarion. Alors l'enjeu d'un tel travail, de 40 années de lecture, de 10 ans de recherche, réside dans l'objet même de cette étude, Guy Debord, qui s'est lui-même construit comme un mythe, une image inaccessible. Alors comment avez-vous procédé pour le toucher au plus près ?
Au départ, j'ai fait comme tout le monde, j'ai pris le mythe au pied de la lettre, croyant qu'il n'y avait pas, ou du moins pas beaucoup, de différence entre ce que Debord disait de sa vie et la vie réelle qu'il avait menée. Le fait qu'il soit discret, et même secret, sur sa vie réelle ne me gênait pas, je trouvais ça plutôt comme une élégance dans une période où chacun étale complaisamment son existence. Mais petit à petit, il y a eu des archives qui se sont ouvertes en Hollande, à Paris, à la BNF, aux États-Unis surtout, à l'université Yale, qu'il était possible de consulter et qui donnaient de Debord, quand on les regardait, une image totalement différente de ce que lui-même racontait dans ses écrits autobiographiques. Je ne suis pas arrivé à la conclusion à laquelle je suis arrivé en une fois. C'est au fur et à mesure que le travail avançait que je me suis rendu compte qu'il y avait véritablement un fossé entre ce qu'il disait de lui et la façon dont il avait véritablement vécu. Donc, à partir de là, eh bien, j'ai petit à petit regardé de plus près les détails de sa vie. Et au bout d'un certain nombre d'années de recherche, il a été possible de la reconstruire dans une perspective totalement différente.
Merci beaucoup Jean-Marie Apostolides. On vous retrouve demain pour parler donc de votre biographie, Debord, le naufrageur, paru aux éditions Flammarion. À demain.
Merci à vous Géraldine, merci à tous et merci au public de Cité Philo qui est resté avec nous jusqu'à la dernière minute. Les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour la suite de cette semaine enregistrée à Lille, donc depuis le festival Cité Philo. Demain je recevrai Philippe Kourilski, qui est professeur honoraire au Collège de France, membre de l'Académie des sciences et directeur général honoraire de l'Institut Pasteur. On se demandera comment le corps se défend-il face à lui-même. Rendez-vous demain donc à la même heure à 10h. D'ici là, pour écouter l'émission, rendez-vous sur le site de France Culture. Vous pourrez la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et les nouveaux chemins vous donnent également rendez-vous sur Facebook et Twitter où nous attendons vos remarques et commentaires. Mais pour l'heure, vous écoutez France Culture, il est 10h54. Dans un instant, Christophe Onodibio pour Le Temps des libraires, suivi à 11h de Culture Monde par Florian Delorme.